Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Cybèle Olivier et Mario Dumont.
Alors, en manchette, dans cet épisode de 24 minutes, la ministre Isabelle Charest veut que le commissaire de la Ligue hockey junior majeure du Québec, Gilles Courteau, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes. On parle de cet octogénaire qui a été laissé sans eau ni nourriture pendant 48 heures et qui est décédé. La Chine a perdu 41 millions de travailleurs en 3 ans, l'équivalent de toute l'Allemagne. Quels impacts cela va avoir sur notre économie? Et finalement, un corridor a été découvert dans la grande pyramide de Khéops. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors on débute tout d'abord avec la SAAC qui fait énormément parler d'elle. On parle d'un retour à la normale d'ici fin avril. Alors, on sait que les files d'attente se sont énormément allongées depuis la mise en place de leur nouveau système informatique.
Et mon observation non scientifique, c'est qu'elle s'allonge chaque jour. Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que plus les gens voient les files, plus ils se disent « Oh boy, si j'ai quelque chose, je suis mieux de me prendre d'avance. » Plus ils se plantent le matin dans des files. C'est parce qu'on l'a vu avec les passeports, là.
Et on a eu plusieurs exemples aussi de ça. Oui. Ce matin, justement, avec Philippe-Vincent Foisy, on avait un jeune homme de 17 ans qui, lui, est incapable de faire ses examens. Il veut avoir son permis, pas capable de prendre un rendez-vous. Quand il appelle, la ligne raccroche. Quand il va sur le site, on lui indique un message d'erreur. Alors ça, c'est un exemple qu'on a eu ce matin. Un autre automobiliste qui, lui, a écopé d'un avertissement de 72 heures pour prouver que son permis était bel et bien enregistré. C'était une erreur.
Mais il n'y a aucun moyen pour lui de faire la preuve.
En 72 heures, bonne chance. Il y a 2 semaines, on a parlé à une femme qui s'occupe de l'industrie laitière, elle va chercher le lait chez les gens et l'amène ensuite... elle va chercher le lait dans les fermes et l'amène ensuite chez...
À la transformation.
Et voilà, elle a des nouveaux camions, elle veut les faire plaquer et c'est impossible pour elle de le faire. Donc, c'est plein d'exemples comme celui-ci, comme ceux-là qui font en sorte qu'on se retrouve vraiment dans une impasse avec un système qui est censé faire bien fonctionner les choses, Mario.
Bon, d'abord... Le système informatique a des ratés. Ça, c'est vrai. Les concessionnaires, par exemple, le disent. Donc, il y a un fait là. Mais je pense, malgré tout, je pense pas que ce soit le cœur du problème. Je pense que le cœur du problème, c'est 2 choses. 1, le fait qu'ils ont fermé pendant presque 1 mois. Et là, on n'est plus capable de prendre le dessus sur les cas qui se sont accumulés. Ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, parce que hier, j'ai reçu à LCN un vice-président de la SAC. Et lui... Il mettait le blâme ni plus ni moins que sur les gens. Il disait la moitié des gens qui sont dans les files, puis il disait même qu'il avait envoyé des agents de la SAC dans les files pour demander aux gens pourquoi vous êtes ici, puis essayer de les rediriger ailleurs. Puis il disait la moitié des gens dans les files sont des gens qui pourraient faire leurs affaires en ligne. Sauf que moi, j'écoutais ça, je me disais, mais voyons, là, le monde n'est pas innocent à temps plein. Là. Je veux dire, si t'es capable de régler quelque chose sur ton ordi en 8 minutes, c'est pas vrai que tu vas aller te foutre 4 heures dans une file. Je veux dire, c'est tellement illogique que tu sais que ça se peut pas. Donc, j'ai fouillé ça, j'ai compris le bug. Quand tu veux t'inscrire en ligne sur le site là, qui s'appelle Ça clique, ça clique pas toujours parce que tu ne peux pas rentrer dessus sans avoir le nouveau système d'authentification gouvernementale du gouvernement du Québec. Bon, là, tu passes d'un site à l'autre, là, tu t'en vas sur le site pour aller chercher ton mot de passe, là, tu t'en vas sur le site d'authentification. Ça prend 4 pièces. Permis de conduire, pour la grande majorité des gens, c'est pas un problème. Évidemment, là, si t'as pas ton permis de conduire à cause de la SAC, là, j'avoue que là, t'es pogné dans le dilemme du chien qui court après sa queue. Mais mettons que t'as le permis de conduire. Ton numéro d'assurance sociale, la grande majorité des gens ont ça, pas de problème. Assurance maladie, ça aussi... Tu sais, le permis de conduire, l'assurance maladie, je pense que 80% des gens ont ça, les femmes dans une sacoche, les gars dans un portefeuille, on a ça. Mais, la 4e pièce, l'avis... de cotisation 2020 ou 2021 du ministère du Revenu. Bon, là, excusez-moi, mais l'humanité se sépare ici en 2. Les gens, j'ose dire qu'ils sont minoritaires, j'en suis convaincu, très ordonnés, très disciplinés, qui reçoivent tous les papiers du gouvernement, puis qui classent ça, là, la sac dans la chemise jaune, puis le ministère du Revenu dans la chemise bleue, puis la santé dans la chemise verte, et que quand tu leur demandes leur avis de cotisation de telle année du revenu, ils vont dans la bonne chemise, puis ils sortent tout de suite, puis ils l'ont, je les félicite. Mais je pense pour une grosse partie de la population, quand on te demande l'avis de cotisation du ministère du Revenu de l'année passée ou d'il y a 2 ans, tu pars à brailler, tu t'arraches les cheveux, tu cries, tu hurles, tu fouilles partout, tu ouvres des tiroirs, tu brasses des papiers, tu le trouves plus, tu l'as jeté, tu sais pas où tu l'as mis. Et là, c'est cul-de-sac. Il te manque ce papier-là. Et là, on va te dire, ouais, mais là, ça, tu peux le trouver en ligne. Oh là 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 là. Lorsque là, tu rentres sur le site du ministère du Revenu, qui lui fonctionne avec un autre authentification gouvernementale qui s'appelle Clic Secure. Puis là, dans Clic Secure, tu peux passer par ton institution financière, mais... ça te prend aussi ton numéro d'avis de cotisation du ministère du Revenu. Fait que t'es revenu dans le bouc du chien qui court après sa queue, là. Tu peux pas y arriver. Sinon, il y a une autre façon de s'inscrire. Mais écoute, c'est le parcours du combattant. Et donc, je pense, à mon avis, il y a 2 catégories de gens qui peuvent pas s'inscrire. Les gens qui sont pas très familiers avec l'informatique, soit les gens plus âgés, les gens un peu moins instruits, là, parce que tout ce que je dis là, moi, c'est beau, là, moi, je placote, là, mais sur les sites, là, c'est des longs sites de plusieurs pages où il y a un onglet, faut que tu trouves le bon en bas de la page qui t'amène à consulter. Fait que déjà, tu peux t'y perdre, et les gens qui sont mal à l'ordre, là, c'est triste, c'est-à-dire les gens qui trouvent pas leur avis de cotisation du ministère du Revenu, mais c'est pas comme 1% de la population, les gens mal à l'ordre, c'est une majorité. Si je dis mal à l'ordre, pas nécessairement que c'est le bordel chez vous, puis qu'il y a des rats, mais que tu classes pas tout bien tes papiers, que tu trouves pas ce papier-là. Donc, c'est tout ce monde-là là, qui sont en file. Donc, quand tu te places du point de vue de la SAC, tu vas voir les gens, tu dis, ah ben regarde, s'il est niaiseux, il est venu dans le file alors qu'il a fait quelque chose qui pourrait se faire en ligne. Mais quand tu mets du point de vue des citoyens, ils vont te dire, ben non, mais... D'ailleurs, le caricaturiste Y, le caricaturiste du journal, a fait une excellente caricature d'un gars là, qui part avec son pack-sac là, puis qui s'en va. Il dit, je m'en vais chercher mon passeport, puis mon permis de conduire, puis il part avec une tente.
Il part en voyage.
Oui, il part avec une tente, un gros sac de voyage, mais le point, c'est que dans sa TV et dans son ordi, il y a une hache de plantée dans le site sa clique. Fait que tu comprends qu'il a essayé, il a fait l'effort dans sa clique, mais il a juste pas réussi. Fait qu'une longue, longue, longue histoire que je raconte, mais c'est ça pareil qui est arrivé, c'est que ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont tout monté cette affaire-là puis qui ont jamais réalisé. Il y a un point où tu te dis, faudrait qu'il y ait une nouvelle loi, que tout ce que le gouvernement met en place, faut qu'il y ait un focus group. Tu sais, les agences de publicité, ils font une campagne, là, puis ils font toujours des focus group. Ils vont réunir 12 citoyens, le choisir au hasard, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Faudrait que, puis là, ils leur font leur publicité. Puis là, des fois, les autres, les concepteurs vont dire, c'est génial notre affaire, puis les gens restent la face longue puis disent, ben, c'est bien plate, cette publicité-là. Puis tu te rends compte que toi, tu pensais que c'était bon, mais ça intéresse pas le monde. Mais dans ce cas-ci, il faudrait que le gouvernement teste leurs affaires avec du vrai monde pour dire, hey, voici notre nouveau site. Venez donc l'essayer. Puis peut-être qu'ils réaliseraient. Moi, je pense que dans ce cas-ci, il aurait réalisé, les gens diraient, ouais, l'avis de cotisation au ministère du Revenu, j'ai pas ça, moi. Pour réaliser que là, t'es en train de piéger tes propres citoyens, puis c'est toi qui vas se piéger comme sac, qui va se retrouver avec un système complètement embourbé. En voilà.
Je veux qu'on passe maintenant, qu'on revienne à un sujet qui a fait beaucoup parler. C'est cette femme, Madame Gilbert Gosselin, qui est décédée. Elle avait 86 ans. Décédée dans des conditions atroces, comme on entend trop souvent dans les derniers mois, dernières semaines. Donc, je vous rappelle un petit peu cette histoire. Elle a été admise à l'Hôtel Dieu de Lévis mardi dernier pour une fracture à la hanche. Donc, elle est installée sur une civière dans le couloir de l'urgence. Elle arrive avec des problèmes
cognitifs. Jusque-là, on dit ça comme si tout était normal. Là,
tout est normal.
À l'urgence, t'es dans le couloir. Non, mais
c'est un problème.
C'est parce qu'il y a 25 ans, on n'installait pas le monde dans les couloirs d'urgence, mais aujourd'hui, en 2023, tu rentres à l'urgence en ambulance, t'es dans le couloir. Là, c'est tout à fait...
Je me suis même pas rendu compte d'à quel point j'ai dit ça comme si c'était
normal. Moi, je suis vieux, je me souviens de l'époque où on disait ça. Là, c'était une nouvelle, là. On disait ça aux nouvelles, là, à tel hôpital, là, aujourd'hui, il y a 3 personnes dans le couloir. C'était une nouvelle. Il n'est pas supposé avoir du monde dans le couloir. Maintenant, mais là, c'est plus une nouvelle. Donc, elle était, oui, dans le couloir. Jusque-là, tout est normal.
Jusque-là, tout est normal. Et ça lui a pris énormément de temps avant de finalement pouvoir être placée dans une chambre. Elle a été déplacée 2-3 fois. La famille a appelé. Ils n'ont jamais voulu la transférer. Elle a même été prise dans ses selles. On est une journée plus tard. Elle est rentrée mardi soir. Mercredi soir, la famille demande demande au préposé, pouvez-vous changer ma mère?
Il
n'y
a plus de préposé, dit-on, ça déborde à l'urgence, il n'y a plus le personnel, ben, des classiques. Là.
3 heures plus tard, ça lui a pris 3 heures avant d'être changé de couche ou peu importe de qu'est-ce qu'elle portait pour l'accommoder. On dit que ils ne lui ont même pas offert à boire, même pas offert à manger. Et c'est des témoignages après que la famille ont vu, ont vécu avec la mère qui est maintenant décédée. Et ce matin, un peu plus tôt là aujourd'hui à Cube avec Yasmine Abdel-Fadel, on a reçu en entrevue la petite fille de cette dame qui est décédée. La petite fille s'appelle Véronique Labonté. On a un extrait d'elle qui nous parle de comment elle a vécu cette situation-là. Mais surtout, ce qu'elle déplore, c'est qu'elle n'a jamais reçu d'excuses officielles de l'hôpital. On va écouter ce qu'elle avait à nous dire.
Pas d'excuses formelles. J'ai reçu un message d'un des médecins qui avait vu ma grand-mère parce que j'avais fait une publication Facebook pour raconter son histoire. Oui. Là, c'est de là que tout est parti. Pour me dire que, dans le fond, cette personne-là avait été présente puis que j'avais bien fait de dénoncer que c'était pas des conditions normales, ce qui s'était passé.
Pas des conditions normales. Non, en plus, on voit que la dame, Madame Gosselin, a demandé à manger, a demandé une rôtie, puis on lui a refusé. On lui a dit non.
Non, parce qu'il y a un point, je peux pas trop. C'est parce qu'il y a eu de la confusion. On se disait peut-être qu'elle va être opérée. Maintenant, on avait peur qu'elle s'étouffe. On a eu peur de toutes sortes de choses. Finalement, de peur en peur, on l'a pas nourri, puis on l'a pas donné à boire. Mais à la base, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait rien faire pour elle, parce qu'il semble qu'à mi-chemin dans son séjour à l'hôpital, on est comme arrivé à dire à la famille, écoutez, là, on pourra pas l'opérer pour sa hanche, elle est trop faible, elle est trop mal en point, on arrive dans des soins de confort, on a commencé à parler de fin de vie. Ce que la loi prévoit, ce matin, le docteur David Lucier, gériatre, me disait, il est même pas sûr que la loi est connue dans tous les centres hospitaliers du Québec, mais ce que la loi prévoit, puis je le dis aux gens, c'est bon que vous le sachiez, quand on arrive à des soins de fin de vie, vous avez droit, par la loi, l'article 12 de la loi sur les soins de fin de vie, la même loi qui donne l'aide médicale à mourir, mais cette loi-là est pas juste sur l'aide médicale à mourir, elle est sur mourir dans la dignité en général. Dans toutes les circonstances, on devrait pouvoir mourir dans la dignité. Et donc, quand on t'annonce que tu as des soins de fin de vie, tu as le droit à une chambre seule. Tu as le droit à une chambre où il y a personne d'autre, tu as le droit à une chambre privée pour vivre tes dernières heures, tes derniers jours avec ta famille dans l'intimité. Et donc la famille aurait été en droit de le réclamer, l'hôpital avait le devoir de fournir ça. Mais bon, dans ce cas-ci, on l'a déplacé d'une place à l'autre à l'intérieur de la même urgence, toujours dans le trafic, toujours à travers le monde.
Mais moi je me demande, est-ce qu'ils en ont toujours des chambres de disponibles?
Bon, qu'est-ce là, qu'on fait? Est-ce qu'on comme déplace on dit quelqu'un? À l'impossible nul n'est tenu, mais dans ce cas-ci, l'urgence est certainement pas l'endroit là. Oui, il pourrait arriver une situation où une personne a droit à une chambre. On a vraiment, vraiment, vraiment pas de chambre. Mais ici, on semble même pas avoir fait de la démarche là, de tenter le transfert pour la dame.
On passe maintenant à une autre nouvelle. Encore un sujet qui fait parler, c'est tout ce qui se passe dans le monde du sport, dans le monde du hockey. On parle des initiations dégradantes dans ce monde de sport. La ministre Isabelle Charest veut que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, soit rappelé devant les parlementaires pour rendre des comptes. Parce qu'il y a beaucoup d'élus et de critiques qui sont insatisfaits de ses réponses. Ils veulent l'entendre à nouveau à ce moment-là.
Parce qu'il est sorti certains éléments contradictoires après son passage contradictoire avec les réponses qu'il avait fournies. Là.
Et en plus, il a dit en entrevue au Journal de Montréal, il a plaidé plutôt l'ignorance. Et il a dit même qu'il n'avait pas tout lu les déclarations avant son passage en commission parlementaire. Donc, il y a des gens qui se demandent en fait si la situation est un peu prise à la légère de la part de M. Courteau. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie de le rappeler. D'autres questions doivent être posées.
Ouais, en fait, il y a deux partis d'opposition qui en sont même plus là. Les libéraux et Québec solidaire en sont carrément à demander la démission de M. Courteau. Démission, c'est un peu bizarre parce qu'il a déjà annoncé son départ l'année prochaine, à la fin de l'année. Mais il voudrait que son départ soit immédiat. Moi, je me suis posé la question. Quand j'ai vu que la ministre Charest lui demandait de revenir à l'Assemblée nationale, je me suis dit « ouais ». Est-ce que deux partis qui demandent son départ, la ministre qui demande de revenir, est-ce qu'il va en profiter comme pour tirer sa révérence puis dire « gars, je retournerai pas à l'Assemblée ». Mais c'est pas du tout sa réaction. Il a dit qu'il va finir son mandat, il lui reste quelques mois, il va les faire. puis que ça le dérange, ça l'encombre pas. Là. S'il doit retourner à l'Assemblée nationale, il va le faire, qu'il est fier de son travail, il est fier de ce qu'il a fait, il n'y a rien à cacher. Et donc, s'il faut qu'il retourne devant les parlementaires pour expliquer la contradiction ou l'erreur qu'il a faite, puis le fait qu'il n'y a rien à se reprocher, il va retourner. Donc, ça semble être son attitude jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'à l'Assemblée, on va lui refixer c'était quand même un peu bizarre. J'ai pas vu ça souvent dans l'histoire de l'Assemblée. La comparution d'un témoin dans le cadre de travaux sur l'étude d'un sujet, puis que la semaine d'après ou deux semaines après, tu dis, ouais, mais là, finalement, il nous a pas tout dit, il nous l'a pas bien dit, ou son témoignage était pas complet, on le fait revenir. En fait, juste pas arrivé souvent, j'ai même pas souvenir qu'une telle chose soit arrivée. Est-ce que c'est comme ça que ça va finir? À suivre.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
On poursuit avec le genre de nouvelles que j'aime bien entendre, qui nous donne peut-être un petit peu le sourire. C'est l'histoire d'une tétraplégique qui a retrouvé l'usage de ses mains. Donc, c'est grâce à la médecine moderne, et c'est au Québec que ça se passe, que les tout premiers patients peuvent bénéficier de ce genre d'opération-là. C'est l'histoire de Jeanne qu'on nous raconte dans le journal, qui est devenue tétraplégique en 2021 après un accident. Mais là, quelques mois après sa sortie des soins intensifs, on lui a annoncé qu'elle pourrait retrouver l'usage de ses mains. Et comment? Eh bien, la chirurgienne utilise les nerfs des avant-bras pour aller stimuler les nerfs des mains qui ne fonctionnent plus, qui leur permet de venir réanimer les nerfs inactifs. Donc, en quelque sorte, on vient brancher le courant dans les nerfs des mains. Et elle peut finalement retrouver son influx nerveux et recommencer à utiliser ses mains. C'est sûr, c'est pas miraculeux. Elle va pas avoir la même dextérité qu'un chirurgien, mais c'est quand même c'est quand même révolutionnaire pour elle qui pensait peut-être complètement perdre l'usage de ses mains. Alors c'est une opération qui s'est déroulée cet été. La période de guérison est terminée pour elle, mais elle va devoir attendre 2 ans, le temps que les nerfs se régénèrent et que le cerveau aussi se réadapte, parce que bien sûr, on sait comment notre machine s'adapte rapidement, mais perdre l'usage de ses mains, j'imagine que ça peut causer énormément de stress. Donc voilà, on est présentement au Québec dans ce qu'on appelle une phase expérimentale. C'est une dizaine de patients qui ont pu bénéficier de cette chirurgie. Alors, les résultats pour l'instant sont très encourageants. L'hôpital Maisonneuve Rosemont va continuer d'offrir ces chirurgies-là. Et on espère voir d'autres personnes s'ajouter à la liste et ce genre de nouvelles arriver plus souvent, bien sûr.
Ça arrive souvent que dans un même bulletin comme aujourd'hui, t'as des nouvelles sur ce qui se fait de miraculeux, là, de talent, de génie, d'innovation, de gens qui travaillent dans le réseau de la santé, puis que dans le même bulletin, t'as une personne qui a été laissée à l'abandon, ni plus ni moins, dans une urgence, à mourir, sans que personne s'en occupe, sans qu'on puisse... C'est un peu le drame de notre système de santé. C'est-à-dire que c'est un système d'énormes capacités au niveau des compétences. C'est juste de réussir à y avoir accès, à avoir du service, etc. Est-ce qu'on réussira à réconcilier ça? Tout tirer vers le haut, là, partir des succès pour tout tirer vers le haut? Je sais pas. Je l'espère.
Économie.
Alors, la chaîne de librairies Indigo vient de marquer un précédent. Elle a refusé de payer des pirates informatiques qui ont volé les données personnelles des clients. Alors, les dirigeants ont dit que ça aurait été inapproprié. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Selon eux, il n'y avait aucun moyen de s'assurer que l'argent ne serait pas allé à des terroristes ou à d'autres personnes sur une liste noire. Alors, ils ont refusé cette rançon. On se rappellera que les données ont été volées le 8 février dernier. Les pirates ont utilisé un logiciel de rançon appelé Lockbit. C'est un logiciel qui est associé au crime organisé russe. Alors, selon Indigo, certaines données seraient déjà disponibles sur le dark web. La compagnie va plutôt offrir 2 ans de protection d'identité pour les clients touchés, mais c'est quand même un précédent de décider non. Nous ne céderons pas à la menace des pirates informatiques.
C'est l'idéal, hein? Tu sais, je veux dire, c'est comme quand des pays ont un citoyen qui est enlevé par des malfaiteurs, là, des gens qui font des kidnappings contre rançon dans un pays, un groupe terroriste ou autre. C'est sûr que des fois, c'est tentant, puis la famille va encourager le gouvernement du pays, veut revoir cette personne-là, payer, trouver une façon par la porte d'en arrière de payer. Mais, je veux dire, le jour où tu fais ça, là, Ben, t'encourages le groupe à dire, ben là, faites-en des kidnappings. Je veux dire, les travailleurs humanitaires, des travailleurs étrangers, des touristes, n'importe quoi. Si le Canada paye, ben là, je veux dire, pourquoi tu kidnappes... T'as kidnappé un Canadien, le Canada a payé, mais pourquoi t'en kidnapperas pas 5? Tu vas avoir 5 fois le montant. Tu sais, c'est simpliste mon raisonnement, mais c'est quand même là que ça mène. Mm-hmm. Alors comment, ben... Mais des fois, t'as pas le choix, t'es mal pris. C'est pour ça que des fois, ils le font en cachette, par en arrière, trouvent un organisme, puis tout ça, que ça paraisse pas, que ça se sache pas, mais... qu'ils ont payé, mais quand t'es comme Indigo... Par contre, on a vu carrément aux États-Unis, genre un pipeline, là, que les pirates avaient pris le contrôle de la du système informatique qui contrôlait la valve. Et là, on a dit, OK, mais si on paye pas, ça peut prendre reprendre le contrôle de l'informatique peut prendre des semaines. Pendant ce temps-là, on n'est plus capable d'ouvrir la valve. Il y a des régions du pays qui ont plus de carburant. Nous, on n'a plus de revenus.
Les impacts sont différents quand même.
Là, Indigo lui semblait avoir la marge de manœuvre nécessaire pour pas payer. Et tant mieux. C'est l'idéal là, de faire que ces gens-là, ces pirates-là, au moins, leur opération, ils peuvent pas en récolter tous les fruits qu'ils espéraient. Au moins, ça les encourage pas à recommencer.
La Chine, maintenant.
Le monde.
Alors, la Chine, maintenant, on apprenait qu'elle a perdu 41 millions de travailleurs dans seulement les 3 dernières années. Ça, c'est presque autant que tous les travailleurs d'Allemagne. La raison est simple, Mario. L'âge de la retraite est de 60 ans en Chine et leur nombre, bien sûr, a explosé dans les dernières années. Il reste quand même là plus de 733 millions de travailleurs là-bas. Mais ça reste qu'une énorme partie des gens qui ne travailleront plus et la Chine représente 30% de la production mondiale. 30%, oui, de la production mondiale. Alors, l'État chinois risque de faire grimper l'âge de la retraite pour éviter que la situation s'envenime. Mais là, ça fait 40 ans.
C'est pas un débat facile, ça.
Ben, oui,
on l'a vu en France, on l'a vu au Québec. Mais,
pas de jeunesse, c'est qui va prendre la relève?
Mais en fait, ça fait partie de la prise de conscience... D'après moi, si tu demandes aux Québécois moyens ou aux Canadiens moyens ou même à l'Américain moyen, on a l'impression que la population de la Chine, là, c'est en croissance, ça a passé 1 milliard, 1,2 milliard, 1,4 milliard. C'est terminé, là. La croissance de population en Chine. En fait, la Chine vit un vieillissement de population. Ils ont arrêté les naissances. On se souvient des longues années de politique où ils avaient coupé les naissances. Donc, la Chine, elle devient une société vieillissante. La population de la Chine, donc là, t'as plus de retraités, mais la population de la Chine, complètement, va commencer dans quelques années à décroître. C'est l'Inde qui va devenir le pays le plus populeux du monde. En fait, qui est déjà, je pense, en train cette année, là, probablement qu'en 2023 va être l'année où les courbes se croisent, où la Chine devient le deuxième pays le plus populeux du monde. Et quelque part en 2060, 70, vers 2100, la population de la Chine va rebaisser sous le milliard. C'est pas une petite baisse, là. T'entends 1,3-4. Ils vont rebaisser sur le milliard. Donc, un déclin très, assez démographiquement, économiquement, c'est quelque chose d'assez unique. En même temps, la Chine va vivre la même chose que nous. Et on a une économie de plus en plus productive, de plus en plus basée sur de la robotisation, de l'automatisation. Donc, va avoir un niveau de vie. Chaque citoyen va produire plus, moins manuellement, plus à partir de machinerie. Va avoir un enrichissement. Mais c'est comme une transformation radicale de la société chinoise. Puis, dans l'immédiat, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'économie mondiale. Mais 40, j'avoue, moi-même, aujourd'hui, j'ai vu la manchette, puis tout ce que je dis là, je savais déjà ça. Puis je dis, OK, 40 millions de travailleurs en 3 ans, c'est plus que tout ce que j'aurais imaginé. Là. C'est sûr qu'en Chine, dès que tu parles de chiffres, tout est gros. Là, mais quand même.
Et c'est sans mentionner l'espérance de vie qui continue d'augmenter aussi.
Absolument. Mais ben là, ils vont le vivre, là, la retraite, puis des retraités nombreux, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pension à donner à leurs retraités. C'est des débats qu'ils vont avoir là-bas, c'est bien certain.
Voilà. Et maintenant, nouvelle que tu as abordée un petit peu plus tôt, c'est celle de la pyramide. On a découvert un passage caché, un long passage de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, pyramide de Khéops. Et ça, cette découverte a été faite dans le cadre d'un projet de recherche international. En fait, ils ont réussi...
Qui porte son nom, il s'appelle Scan Pyramide.
Scan Pyramide.
Qu'est-ce qu'on fait?
On scanne
les pyramides.
À l'infrarouge. On scanne avec quoi? Voilà, avec la thermographie infrarouge. Et ils ont réussi à vraiment scanner la pyramide, voir qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur et ont découvert ce passage-là. Bon, ce qu'on estime...
Donc, Indiana Jones n'était pas dedans, là.
Ben, peut-être qu'il aurait aimé ça.
Ou ils l'ont pas dit.
À
une cachette, hein. Un complot, ils nous ont caché ça.
Donc, c'est ça, ça mesure à peu près, 9 mètres de long, 2 mètres de large. Et beaucoup de gens qui se sont demandé si ce serait pas une découverte qui aurait permis au pharaon de se déplacer ou du moins de se rendre jusqu'à sa crypte. Depuis la fin 2015, la mission scrute le ventre de la pyramide. On utilise des technologies de pointe et on espère avoir plus de réponses sur comment fonctionnait à l'intérieur, comment les gens se rendaient là. Et même, ils se demandent s'ils vont pas découvrir d'autres corridors comme celui-ci. C'est les recherches qu'ils sont en train de faire, là.
Mais le projet Scan Pyramide, je voyais, en fait, j'ignorais ça, mais il y a des universités. C'est un consortium, ni plus ni moins, de savants, de chercheurs, d'universités d'un peu partout dans le monde. Il y a des universités canadiennes qui en font partie, là. J'ai vu ça dans les articles internationaux qui parlent du fameux corridor. Je sais pas quelles universités, est-ce qu'il y en a des Québécois, je sais pas lesquelles.
Ah, je sais plus c'est quoi l'université, mais oui, il y a des universités canadiennes
là, qui font partie de la recherche, là. Mais bon.
On va suivre, bien sûr.
Intéressant parce qu'avec la science moderne, on est capable de creuser de plus en plus loin, de plus en plus précis, de plus en plus détaillé pour comprendre le passé. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.